que je vais vous présenter, ce sont les grandes lignes des réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui, comment les sociologues réfléchissent à ces questions-là. Donc je vais le faire en trois points. Je vais vous donner d'abord un certain nombre de définitions au pluriel du handicap, parce que vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça à définir. Il y a beaucoup de points de vue différents qu'on peut prendre sur cette notion-là. Beaucoup de définitions qui se croisent, qui sont parfois en partie contradictoires. Je reviendrai ensuite sur toujours une thématique assez historique, sur les différentes alliances, les différentes étapes, les grands moments de la construction du champ du handicap. Et puis ensuite, je viendrai plus spécifiquement sur des réflexions sociologiques autour de la question du handicap, et plus particulièrement, parce que ça va se recentrer petit à petit, sur les questions du handicap mental et du handicap psychique. Donc je commence avec cette question des définitions. Alors il y en aurait encore beaucoup d'autres, c'est seulement pour commencer à entrer un petit peu dans la question. Vous savez peut-être, pour une partie d'entre vous, parce que c'est une étymologie un peu amusante, que le mot handicap vient de l'anglais, d'une expression qui veut dire « main dans le chapeau »,« hand in cap », parce que ça renvoie à une sorte de jeu d'échange qui s'est pratiqué à partir du XVIIe siècle, où deux partenaires échangeaient des objets qu'on cachait d'abord dans un chapeau, qu'on échangeait ensuite, et une sorte d'arbitre était là pour dire si l'échange avait été équitable ou non. Et au cas où l'échange n'avait pas été équitable, on pouvait faire valoir, obliger le participant avantagé à donner une sorte de compensation. Donc on voit un peu les racines par rapport à ce qu'est devenu le handicap aujourd'hui, même si ça a beaucoup varié entre-temps, puisque avant de revêtir le sens principal qu'on lui connaît aujourd'hui, le handicap, en français, c'est resté dans le domaine du jeu et plus précisément du sport, puisque ça a été principalement utilisé, vous le savez aussi, notamment dans les courses de chevaux, puisque le handicap, à ce moment-là, c'était une forme de désavantage qu'on imposait aux meilleurs chevaux pour maintenir une forme d'équité. Donc, désavantager les meilleurs ou compenser ceux qui ont été désavantagés, voilà, c'est un peu les sens premiers du mot qu'on va retrouver aujourd'hui dans la manière dont on emploie le terme, avec cette idée, alors qu'on a remis au goût du jour très récemment, notamment de compensation pour ceux qui sont désavantagés. Alors, ces considérations étymologiques, c'est toujours intéressant pour réfléchir un petit peu aux différents sens de la question, mais comme je vais le montrer et je vais insister sur ce point, ce sont surtout ensuite tout ce qu'on a fait depuis le XVIIe siècle, mais surtout au XIXe et au XXe siècle, tout un ensemble de mesures, de lois, de politiques qui vont donner un sens particulier à ce qu'on appelle le handicap, et je vais essayer d'insister là-dessus. On aurait pu construire ces questions-là tout à fait différemment. Il y a une forme d'arbitraire dans la manière dont, petit à petit, on a mis en place des mesures, des lois qui ont fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que, de manière évidente, le handicap, ça renvoie à certains problèmes, à certains groupes de personnes. Il y a d'autres époques, il y a d'autres pays où on a fait ça tout à fait différemment. Sans dire forcément que ça aurait été mieux d'une façon ou d'une autre, mais c'est important de prendre acte qu'il y a eu des choix qui ont été faits et qui, petit à petit, créent une réalité qui devient naturelle ou évidente pour beaucoup de gens. Alors, je vais sauter pas mal d'étapes pour parler d'un autre problème de définition du handicap. C'est une définition que j'ai appelée pratique, pour savoir vraiment ce qu'on désigne par handicap, qui renvoie à des débats qui se sont tenus essentiellement au XXe siècle, en particulier, pour simplifier, entre les associations de personnes, de proches, de personnes handicapées, et, disons, pour aller vite, le champ sanitaire, le champ médical. Donc c'est cette opposition que je vous ai mise sur la diapositive entre ce qu'on a appelé récemment le modèle médical ou individuel d'un côté et le modèle social du handicap. Donc, je vais simplifier parce que dans les faits, il y aurait beaucoup de nuances à apporter, on pourra en discuter si vous voulez. On va avoir d'un côté un modèle, c'est-à-dire une façon de penser, de se représenter le handicap, qui va venir du milieu médical et qui va mettre l'accent sur le fait que le handicap est directement lié à des maladies ou des accidents, des troubles, des dysfonctionnements, des anomalies, etc., qui engendrent des particularités à l'échelle de l'individu. J'ai repris une représentation classique qui n'est pas de moi. Hein. Vous avez voilà, une des représentations les plus classiques aujourd'hui du handicap, une personne en fauteuil roulant, et puis il y a un bureau de vote qui est à l'étage, il y a un escalier. Alors c'est quoi là le handicap? Le modèle médical ou individuel aura tendance à penser les choses en disant ben, le handicap c'est le fait que cette personne n'a pas l'usage de ses jambes, donc elle est obligée d'avoir recours à un fauteuil roulant, et donc dans certaines situations, elle se retrouve empêchée, alors en l'occurrence empêchée d'accomplir ses droits de citoyen, donc en l'occurrence d'aller voter. Donc le modèle individuel va insister sur le fait que le handicap est dans l'individu et va l'empêcher d'avoir accès à un certain nombre de droits, d'activités, etc. Le modèle social, lui, qui a donc été porté notamment par des associations de personnes handicapées, en partie aussi par des chercheurs, plus particulièrement dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, qui ont formé un courant qui est assez étranger à ce qu'on peut connaître en France, qu'on appelle les disability studies, c'est-à-dire les études sur le handicap. Et ce qu'elles ont de particulier, ces études, par rapport à ce à quoi on est habitué en France, c'est qu'elles mêlent une approche scientifique et une approche militante de ces questions. Donc les disability studies, ça va être les recherches sur le handicap qui sont engagées dans la manière dont on voudrait que la société traite les personnes handicapées. Bon, en France, ça peut être des choses qui commencent à se développer, mais c'est assez rare. Hein. La tradition française dans la recherche, dans les différentes sciences, c'est qu'on essaye de séparer le plus possible la question militante et la question scientifique. Alors, on ne peut jamais les séparer jusqu'au bout. Hein, en sociologie du handicap, il y a des prises de position, mais il y a une manière de pratiquer la sociologie en France qui essaye de séparer le plus possible, même si on n'y arrive pas jusqu'au bout, ce qui est de l'ordre de la recherche scientifique et ce qui est de l'ordre des opinions politiques ou des positions militantes. Donc, en lien avec ces disability studies et en lien avec des associations qui vont se constituer dans le champ du handicap, on va avoir une représentation concurrente de la question du handicap. On va ensuite appeler un modèle social du handicap. Et donc là, dans cette situation, les tenants du modèle social du handicap vont dire le handicap, il n'est pas dans l'individu, il est soit dans l'escalier, soit plus précisément dans la relation entre une personne qui a des particularités et une situation qui est en l'occurrence représentée par une architecture particulière, par cet escalier. Et c'est la rencontre entre ces particularités sont effectivement liés à l'individu et à un environnement, une situation qui crée le handicap. C'est pour ça, vous savez, que de plus en plus, on a tendance à parler de situation de handicap. C'est une des influences du fait que le modèle social du handicap a pris de l'ampleur. On se met à parler, pas toujours, mais assez souvent, de situation de handicap. C'est le fait que certaines particularités dans un environnement donné créent du handicap. Et l'idée, si on pousse le modèle social assez loin, c'est de dire que lorsque la situation évolue, le handicap peut disparaître. Si une personne qui a des particularités, comme en l'occurrence ne pas pouvoir marcher, se déplacer sans l'aide d'appareillage technique, si dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne qu'on considère comme normaux, il n'y a pas d'obstacle, on peut dire, dans le sens du modèle social du handicap, qu'il n'y a plus de handicap. Alors je reviendrai tout à l'heure hein, sur les questions que ça peut poser par rapport aux mesures, aux lois qui existent en France. Hein, je le dis tout de suite rapidement, on n'est pas passé totalement du modèle individuel au modèle social du handicap. Le modèle social du handicap a pris de l'ampleur, c'est-à-dire que de plus en plus, dans certaines situations, on raisonne en utilisant le modèle social du handicap. Ça ne veut pas du tout dire que l'ensemble des lois, l'ensemble des mesures sont pensées en termes de modèle social du handicap. On le verra tout à l'heure, hein, on est un peu entre les deux, notamment dans le cas français. Donc j'en viens justement aux définitions, cette fois-ci légales, du handicap. Donc je vais revenir sur la loi de 2005, pas parce que c'est la première loi sur le handicap en France, hein, vous savez, il y en a d'autres, il y a une loi sur les travailleurs handicapés dans les années 50, il y a une première grande loi sur le handicap en 1975, mais ce qu'elle a de particulier, la loi de 2005 en l'occurrence, c'est que c'est la première loi qui donne une définition précise du handicap, puisque en 1975, on avait laissé cette question difficile entre parenthèses en disant « Eh bien, le handicap, ça va être ce que les commissions qu'on met en place avec cette loi vont reconnaître comme étant du handicap. » Donc une définition un peu tautologique qui laisse le soin aux commissions, aux nouveaux professionnels qu'on entend former dans le champ du handicap, de dire ce que c'est que le handicap et ce qu'il n'est pas. En 2005, hein, 30 ans après cette première loi, le législateur a pensé qu'il était en mesure, avec l'expérience qui avait été accumulée, de proposer une définition, alors que vous connaissez peut-être, parce qu'elle a été pas mal relayée, je vous l'ai mise sur cette diapositive, constituer un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. On sent bien les efforts pour dire très précisément de quoi on veut parler, ce qu'on essaye d'inclure dans le champ de cette loi et ce qu'on laisse de côté. Vous voyez par rapport à ce que je vous ai raconté juste avant, que le thème de l'environnement, c'est-à-dire de la limitation d'activité qui n'est pas pensé uniquement comme la conséquence d'une maladie ou d'un trouble individuel, mais comme une interaction avec l'environnement est présente. Pour autant, hein, pour revenir tout de suite sur ce que je disais avant, on n'est pas dans le développement pur du modèle social. Hein. On insiste beaucoup dans cette définition sur la question des altérations qui sont propres à l'individu, qui vont toucher des fonctions, et ces fonctions, on va ensuite les détailler dans la loi. Donc, on s'inspire en partie de certains points du modèle social, du fait que l'environnement est important, que c'est la situation d'un individu qui va entraîner un handicap particulier, mais en même temps, on reste sur l'idée que ce qui est fondamental, ce qui va permettre ensuite aux différentes institutions de juger s'il y a handicap ou non, ça va être les conséquences d'altérations substantielles, durables ou définitives de certaines fonctions. Alors je souligne aussi tout de suite, hein, c'est important parce que j'y reviendrai, on dit toujours la loi de 2005 a par exemple créé le handicap psychique, oui et non. Vous voyez, dans la loi, on ne dit pas il existe un handicap psychique, il existe un handicap physique, etc. On dit qu'il existe le handicap qui peut être reconnu officiellement, administrativement, et que ça peut être lié à l'altération de différentes fonctions. Et dans la liste des fonctions, on a le mot psychique. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'en 2005, on reconnaît le handicap psychique. Si on voulait être très précis, il faudrait dire qu'on peut reconnaître des handicaps qui vont être liés à des altérations de fonctions psychiques. C'est un peu différent, c'est important de bien l'avoir en tête, même si après, dans la manière dont ça va être utilisé, pensé, on va revenir à l'idée que le handicap psychique peut exister. À force d'en parler, forcément, on le fait exister. Je voudrais venir petit à petit à la définition qui me semble la plus importante, c'est-à-dire une définition historique et sociale, en gardant en tête que, encore une fois, si on définit le handicap comme on le définit aujourd'hui, en lien notamment avec cette loi de 2005, c'est à la suite de tout un ensemble de mesures, de lois, d'évolutions, mais aussi de processus sociaux qui auraient pu ne pas se produire. Le handicap, tel qu'on le définit aujourd'hui, c'est une réalité récente, au sens où, pendant très longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui handicap, on l'a pensé autrement. Et le fait de le penser autrement, ça change tout sur les conséquences que ça peut avoir, sur la manière dont on le reconnaît, sur le fait que ce phénomène existe ou non. Premier ensemble de réflexions qu'on peut avoir sur cette question de la définition du handicap, c'est la manière dont cette loi de 2005 elle s'est inspirée d'un grand nombre de réflexions préliminaires, et notamment de classifications, de barèmes, de conventions. Alors, ce n'est pas exhaustif, encore une fois, la diapositive que je vous présente, mais l'histoire du terme de handicap et de la manière dont on l'a construit, c'est lié notamment à ces classifications qui commencent au XIXe siècle et qui partent de la nomenclature internationale, notamment des causes de décès, qui va petit à petit s'élargir. Au-delà du décès, on va classifier l'ensemble des maladies. Alors, c'est ce qui va devenir la classification internationale des maladies et toutes ces révisions. Et à partir de cette classification internationale des maladies, dans les années 70-80, l'OMS va préparer une classification parallèle qu'on va appeler dans un premier temps la classification internationale des handicaps, CIH, qui va proposer, encore une fois, une façon de penser la question du handicap. Alors, cette première classification, qui va être adoptée, traduite officiellement en France en 1989, elle présente le handicap à partir de différents plans. Elle va englober dans la réalité du handicap trois niveaux: les déficiences, les incapacités et ce qu'on a appelé en français le désavantage. Alors très rapidement, parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, ce qui est important de comprendre, c'est que le handicap, ce sont, pour cette classification, les trois niveaux à la fois. Donc ce qu'on appelle déficience, ce sont des dysfonctionnements individuels. Donc là, on est vraiment dans un modèle individuel du handicap. Il y a des fonctions qui ne remplissent pas leur rôle habituel dans un organisme. On a ensuite des incapacités, c'est-à-dire des actes de la vie quotidienne qui ne peuvent pas être accomplis. Alors, ça va être, je ne sais pas, voir, marcher, entendre. Et très souvent, mais pas systématiquement, pas mécaniquement, des déficiences sont à l'origine des incapacités. Troisième niveau, le désavantage, c'est le niveau le plus général, le niveau des rôles sociaux. On va pointer le fait que certains rôles sociaux peuvent être difficilement tenus lorsque il y a, alors là encore, hein, on pense en partie en termes de causalité, lorsque il y a une déficience qui fait qu'on ne peut pas marcher et que donc on va avoir des difficultés à trouver un emploi, plus de difficultés que quelqu'un d'autre statistiquement à se marier et donc à tenir plus largement des rôles sociaux. Alors là aussi c'est très compliqué, il y a eu énormément de débats donc je vais très vite, mais le Philippe Wood qui est à l'origine de cette classification a bien insisté pour dire que ce n'est pas mécanique, c'est-à-dire que ce n'est pas une déficience qui entraîne une incapacité qui entraîne un désavantage, mais ces différents plans sont liés. Et l'intérêt de cette classification, c'est de dire que le handicap, c'est tout ça à la fois. C'est autant les difficultés à remplir des rôles sociaux que les déficiences qui vont être internes à l'individu. Donc d'emblée, hein, dans cette classification de Philippe Wood, il y a l'idée que le modèle individuel et le modèle social du handicap, ils sont valables tous les deux pour penser cette réalité qui est très complexe, qui est multiforme, qui va toucher à des choses très médicales, très internes à l'individu, mais en même temps, des choses qui sont très sociales, très détachées de l'individu et qui renvoient à des rôles sociaux et qui donc peuvent être jugées très différemment d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. Bon, cette classification, elle va être révisée un peu plus tard, en 2001, elle va engendrer une classification qui est encore en vigueur, qui s'appelle la CIF, et qui va, mais là, je ne vais pas entrer dans les détails, essayer de répondre à un certain nombre de critiques et montrer que, encore plus, le handicap est quelque chose de multifactoriel et que l'environnement, les situations de handicap sont très importantes pour penser ces questions. Comme toujours, hein, ces classifications, elles vont influencer petit à petit les différents États qui les reconnaissent, sans toutefois avoir un effet mécanique, c'est-à-dire que la loi français sur le handicap, ce n'est pas un décalque de cette classification, ni d'aucune autre. C'est le législateur en France qui a décidé de définir le handicap, par exemple en 2005, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en s'inspirant de cette classification, en s'inspirant de ce que proposaient les associations de personnes handicapées, de ce qui existait déjà politiquement en France. Donc voilà, ces classifications, ce sont des inspirations. On peut aussi citer, je vous l'ai mise en bas de la diapo, la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Là encore, hein, la France a ratifié cette convention, donc elle doit faire en sorte que ces lois ne vont pas à l'encontre de la convention, mais il y a une marge de manœuvre très importante, là encore, par rapport à toutes ces sources d'inspiration. Autre question très importante, les différentes façons de penser l'infirmité au sein de la société, hein, pour reprendre le mot qu'utilise Henri-Jacques Sticker, puisque c'est de lui que je m'inspire beaucoup là, pour vous faire ce nouveau panorama, et les différentes lois qui se sont mises en place pour petit à petit permettre à la loi de 2005 de définir le handicap comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, là aussi, on va très très vite, hein, on passe allègrement d'une période à l'autre. Je reprends donc les réflexions d'un chercheur qui est à la fois philosophe, historien, anthropologue sur la question du handicap, qui s'appelle donc Henri-Jacques Sticker, qui a montré, qui a essayé de mettre en valeur les différents sens donnés à ce qu'il appelle l'infirmité depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en montrant, là aussi hein, je résume à grands traits, que dans un certain nombre de sociétés antique, l'infirmité est vue comme un danger, quelque chose dont il faut se protéger. Alors vous avez peut-être en tête, hein, parce que c'est souvent cité, que dans certaines sociétés, comme en Grèce, on sacrifiait parfois des enfants qui présentaient des infirmités, que dans d'autres cultures, l'accès aux religieux, aux sacrés, est interdit aux personnes qu'on considère comme infirmes. Et ce que montre Sticker, c'est que petit à petit, d'une culture à l'autre, mais notamment dans la culture occidentale, au fil des siècles, on va changer de point de vue sur la question de l'infirmité. On va avoir, alors c'est un exemple parmi d'autres, au Moyen-Âge, une fonction de dérision attachée à l'infirmité avec tout le rôle de ceux qu'on appelle les bouffons, qui à la fois font rire et en même temps représentent la fragilité humaine, le possible renversement des rôles entre ceux qui sont tout puissants un jour et ceux qui ont l'air d'être les plus faibles. Et puis petit à petit, Sticker montre qu'à partir de la Renaissance notamment, les sociétés vont prendre un nouveau regard sur ces questions-là. Elles vont moins être dans la recherche de l'interprétation de l'infirmité, de à quel sens ça renvoie, à quelle métaphysique ça renvoie, et elles vont être plus dans la question du traitement social. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui posent problème socialement, qui, pour reprendre des termes plus récents, n'entrent pas dans les rôles sociaux habituels et attendus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnes? Quelle place on peut leur donner? Donc il y a eu des périodes où la réponse majoritaire, ça va être une réponse plutôt répressive, de ségrégation, parce que là encore, ces populations, alors avec une confusion forte hein, entre beaucoup, beaucoup de problèmes différents, dont une partie serait appelée handicap aujourd'hui, donc avec des manières de recouper, de contrôler, de mettre au travail ces populations, hein, c'est notamment les travaux de Michel Foucault qui insistent beaucoup là-dessus. Et petit à petit, va se développer un autre point de vue, l'idée que ces personnes peuvent être transformées, éduquées, rééduquées, réadaptées pour poser moins de problèmes à l'ordre social, on peut le dire comme ça, ou alors pour qu'elles puissent mener une vie plus conforme à ce qu'on considère comme étant la norme. Donc là, c'est des évolutions qui vont commencer au XVIIIe siècle et qui vont s'accélérer au XIXe et au XXe siècle. Par rapport à ça, Henri-Jacques Sticker pointe trois événements qui lui semblent un peu fondateurs de ce que va devenir le handicap au XXe siècle. La loi sur les accidents du travail en 1898, la Première Guerre mondiale et les épidémies de tuberculose fin 19e siècle et début du 20e siècle. Alors pourquoi ces trois événements? Là encore, je le dis très vite. Parce que ce sont des moments où l'état social qui commence à peine à se développer va mettre en valeur une légitimité nationale à prendre en charge des personnes qui ont été exposées à ce qu'on va considérer comme des risques. C'est le vocabulaire de ce qui va devenir ensuite la sécurité sociale qui commence à se développer. C'est les prémices de ce qu'on a appelé aussi l'État-providence, l'idée que la collectivité peut s'organiser pour protéger les individus qui sont exposés à des risques particuliers. Alors l'épidémie de tuberculose qui va être liée notamment à des déplacements importants des campagnes vers les villes, la Première Guerre mondiale et tous les mutilés qu'elle produit, et l'industrialisation qui produit un grand nombre d'accidents du travail, ben, tous ces événements-là, ça va être des moments de prise de conscience progressive pour la collectivité vis-à-vis de ces individus qui ont subi des conséquences de grandes évolutions sociales, on peut faire quelque chose. Alors, voilà, ce qu'on va faire, ça va là encore varier beaucoup. Dans un premier temps, on va être dans une optique surtout de réadaptation, de rééducation. C'est notamment le milieu du XXe siècle qui va être beaucoup dans cette logique. Et puis petit à petit, d'autres paradigmes vont s'imposer, notamment celui de l'intégration à partir de la loi de 1975. Alors pour conclure sur ces questions, je voudrais insister sur le fait que le périmètre actuel du handicap, il est constamment sujet à débat et il est en grande partie assez arbitraire. Par exemple, hein, pour des choses qui nous préoccupent ici, la question du handicap psychique, vous le savez, il y a eu un débat pendant de nombreuses années sur la question de savoir si les conséquences des maladies mentales devaient être considérées ou non comme un handicap. On a décidé plutôt que non en 1975, plutôt que oui en 2005. C'est lié à des débats internes entre les associations, entre les psychiatres, entre l'État. Et tout ça n'a pas une seule réponse. Est-ce que oui ou non les conséquences des maladies mentales jouent le même rôle que les conséquences des handicaps moteurs? On ne peut pas répondre à ça. C'est pour ça que je vous mets sur la première ligne. Là, est-ce qu'il faut parler de handicap au singulier ou au pluriel? Il y a de très importantes différences entre les types de handicap, même si on peut trouver aussi, par exemple, si on reprend la chronologie que je vous ai indiquée juste avant, des grandes similitudes entre les façons de penser les conséquences de la réalisation de certains risques. Je voulais aussi évoquer la question de la frontière entre ce qu'on appelle les politiques du handicap et les politiques de la dépendance, de manière assez arbitraire là aussi. Dans les années 70, 80, notamment 90, on a construit des politiques différentes pour les conséquences au niveau de l'autonomie selon que les personnes ont moins ou plus de 60 ans. Parce qu'au-delà de 60 ans, on a mis en place des politiques spécifiques, les politiques de la dépendance, qu'on a construites de façon séparée, même si après on s'est mis à faire quelques ponts, par rapport aux politiques du handicap. Donc là encore, ce seuil de 60 ans, on voit bien à quoi il se rapporte, la question des retraites, du travail, de l'organisation de la vie sociale, mais c'est une forme d'arbitraire politique et social. Alors, je vais passer au deuxième point, mais qui sera plus rapide, sur la question des alliances et des différents revirements sur le XXe siècle, et en particulier sur les questions de handicap mental et de handicap psychique. Donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes aussi à avoir en tête pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Alors, je vais faire ça en regardant rapidement du côté de la médecine, du côté des familles et du côté de l'État. Du côté de la médecine, par rapport à ce qu'on va appeler aujourd'hui le handicap, l'ensemble des affections, des problèmes de santé qui peuvent être en lien direct avec des handicaps, a correspondu pendant longtemps, encore au XXe siècle, à des spécialités médicales qui étaient peu reconnues dans le champ médical par rapport à ce qui faisait le cœur de la médecine. Tout ce qui était lié aux maladies chroniques, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le handicap, n'était pas central dans la médecine parce que c'était des problèmes pour lesquels l'optique de la guérison était d'emblée mise de côté ou en tout cas considérée comme très lointaine. Or, la médecine, pendant longtemps, et encore en partie aujourd'hui, on a pensé que son premier rôle, c'était de guérir. Donc, par rapport à des choses qu'on ne pouvait pas guérir, on pouvait simplement essayer de soulager, d'accompagner, etc., on a été beaucoup moins intéressés et ça a été des spécialités qui ont été moins importantes que d'autres. En même temps, le XXe siècle, c'est un siècle où, sur ces questions-là, il y a eu énormément d'avancées, de découvertes médicales, de nouvelles classifications, de nouveaux diagnostics. Et dans beaucoup de domaines, ces transformations ont été très très importantes et ont abouti à accumuler une somme de connaissances importantes sur les différents domaines qui peuvent toucher le handicap. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu historiquement comment ces différentes spécialités médicales, comment ces différentes avancées se sont traduites socialement par différents types d'alliances, en particulier par des alliances avec des associations de personnes handicapées qui, vous le savez, sont devenues de plus en plus puissantes au fil du XXe siècle. On a une alliance notamment entre des familles aisées, alors il y a beaucoup de travaux là-dessus qui montrent que les associations pour les personnes handicapées, elles viennent, comme la plupart des associations, de milieux aisés qui ont des ressources, qui ont des réseaux, qui ont du capital social, etc. Et qui vont s'associer à certaines branches en voie de reconnaissance dans la médecine pour créer de nouveaux secteurs, de nouvelles institutions. Alors c'est le cas notamment pour l'essor au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de tous les instituts médico-éducatifs qui viennent souvent de cette alliance entre des familles aisées, ayant des ressources sociales et certaines branches de la médecine. Alors il y a plein d'alliances différentes. Il y a eu une alliance assez forte entre psychanalyse et familles aisées à ce moment-là. Cette alliance a eu tendance à s'effriter, à être concurrencée de plus en plus à partir des années 70-80, avec des associations qui se sont tournées vers d'autres spécialités médicales montantes, en particulier du côté des neurosciences. Ces initiatives, toutes ces créations, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elles vont être d'abord simplement accompagnées par l'État qui va accorder des reconnaissances, des subventions, et avant finalement qu'en 1975, c'est une manière d'interpréter ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'il y ait une reprise en main par l'État de ce secteur qu'il avait plus ou moins abandonné. Parce que ce qui s'est passé, c'est que au début du XXe siècle, il y a un intérêt et des lois, par exemple, pour des créations de nouvelles classes, comme en 1909. Et puis, au milieu du siècle, notamment au moment du gouvernement de Vichy, on va avoir un grand nombre de professions et d'institutions qui vont se développer parallèlement à l'éducation nationale, notamment le secteur médico-social. Et si c'est au moment de Vichy que tout ça se met en place, se consolide, ça ne va pas du tout s'arrêter au moment de la libération. Ces initiatives, cette jeunesse qui se passe à ce moment particulier de l'histoire de la France va avoir des suites importantes, notamment parce que l'État finalement se contente, s'arrange bien avec ce secteur médico-social qui vit beaucoup sur des nouvelles professions, sur des associations. Et c'est seulement donc avec la loi 75 qu'il y a une véritable reprise en main par l'État de ces questions-là, puisque la création des commissions comme la COTOREP, les CDES, c'est une façon d'encadrer tout ce qui existe déjà et de valider à un niveau national, à un niveau contrôlé par l'État, de ce qu'on peut considérer comme relevant de la solidarité nationale et ce qui n'en relève pas. C'est le débat sur le handicap mental et la création notamment des classes de perfectionnement au début du siècle, et puis de tout le secteur de l'éducation spécialisée. Alors, il y a un certain nombre de sociologues qui se sont inspirés dans les années 70-80 des analyses de Pierre Bourdieu, qui lui-même, je l'ai mis sur la diapositive, c'est beaucoup inspiré en l'occurrence de Max Weber, pour montrer que derrière ces questions de handicap mental et d'éducation spécialisée, il se jouait des questions de reproduction sociale. Alors, je vous l'explique rapidement. Une partie des recherches de Pierre Bourdieu, notamment en lien avec Jean-Claude Passeron, dans les années 60-70, va viser à montrer que l'école française, en l'occurrence, en tant qu'institution, a un rôle très important dans la reproduction des inégalités sociales. Parce que, disent Bourdieu et Passeron, ce que fait l'école notamment, c'est de légitimer des connaissances que les enfants des milieux favorisés acquièrent principalement dans leur famille, tandis que les enfants des milieux défavorisés viennent à l'école avec une autre culture, d'autres habitudes, et ont beaucoup plus de mal, du coup, à s'adapter aux demandes de l'école. Donc l'idée de Bourdieu et Passeron, c'est de dire que le capital culturel particulier que reconnaît l'école, c'est un capital culturel qui est en phase avec celui des classes favorisées. Et donc les enfants des classes favorisées ont beaucoup plus de facilité à s'approprier les exigences de l'école que les enfants par rapport aux enfants des classes défavorisées. Donc les enfants des classes favorisées réussissent mieux à l'école, donc ils ont une meilleure position sociale, donc ils reproduisent plus facilement la position sociale de leurs parents. Pour les enfants des classes défavorisées, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Il y a davantage d'obstacles, il y a davantage de distance entre eux, ce qu'on leur demande à l'école et ce qu'ils apprennent dans leur famille au quotidien. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire un lien avec la question du handicap? C'est des auteurs comme Francine Muel ou Pinel et Zafiropoulos, Jacqueline Gatto-Mentier qui vont faire ce lien en disant que finalement la construction des catégories de handicap mental, les nouvelles classes qu'on crée au début du XXe siècle, c'est une façon de mettre à l'écart des enfants qui dérangent à l'école. Qui dérangent parce que, avec les lois de Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, on a imposé à la totalité, même si ça s'est fait progressivement, des enfants de venir à l'école. Parmi ces enfants, il y a des enfants qui n'étaient pas du tout préparés à ce qui allait leur être demandé, et donc ils dérangent. Et comme ils dérangent, on se demande pourquoi, on fait venir des spécialistes, encore, hein, je vais un peu vite, et ces spécialistes, des psychologues notamment, vont dire, oui, ces enfants ont des particularités dans leur façon de penser, ils ont des différences, cette différence, on peut essayer de la mesurer avec différentes échelles. Et donc, ceux qui ont des capacités différentes, ont un fonctionnement différent, il faut leur donner une éducation différente, dans des classes à part. Donc ces auteurs, hein, Muel, Pinel, Zafiropoulos, vont dire, c'est l'institution scolaire, finalement, qui, parce qu'elle est beaucoup plus adaptée à un certain public issu des classes favorisées, va mettre de côté un grand nombre d'enfants, en disant que ces enfants ont ce qu'on va appeler ensuite un handicap mental. Mais ces auteurs vont dire, ce qu'on appelle handicap mental, c'est surtout un décalage social. C'est le fait qu'ils vivent dans des milieux sociaux qui ne leur donnent pas les capitaux demandés par l'école. Et donc c'est pour ça qu'ils sont mis de côté. Alors, j'ai parlé de débat parce qu'il y a d'autres auteurs, notamment Monique Vial, qui vont venir montrer, en faisant un travail historique sur archives, que cette façon de voir les choses est en partie fausse. En particulier, ce qu'elle pointe, c'est qu'on ne peut pas montrer que ce sont, par exemple, les instituteurs au début du XXe siècle qui se sont plaints qu'il y avait des enfants qui dérangeaient la classe et qu'il fallait les mettre de côté. On ne trouve pas de traces, c'est en tout cas, il n'y a pas du tout de mouvement massif comme ça, d'une plainte venant directement de l'institution scolaire pour mettre ces enfants de côté. Elle montre au contraire que les psychologues qui sont venus effectivement faire beaucoup de tests à l'école, c'est eux qui sont venus pour développer leurs tests, leurs réflexions, qui se sont associés à l'école, qui certes n'a pas refusé, mais ce n'est pas l'institution scolaire qui est première dans ce mouvement-là. Au-delà de ce débat, c'est quand même intéressant hein, de se rendre compte qu'effectivement, la question du handicap mental, jusqu'à aujourd'hui, elle touche très majoritairement des milieux défavorisés. Alors on peut aller un peu au-delà hein, de ces analyses et essayer de comprendre comment ce qu'on appelle handicap, c'est déjà une construction qui est très liée à une forme de hiérarchie sociale, à notamment le primat de l'intelligence hein, dans nos sociétés. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est compliqué à définir, mais c'est quelque chose qui aussi organise l'ordre social. Donc, la manière dont on la définit, la manière dont on la mesure, elle est liée très étroitement à la question de l'échelle sociale. Par rapport à ça, et puis je m'arrêterai après ce point-là, on peut essayer de penser de façon différente la construction, l'existence du handicap mental et du handicap psychique. Parce que ce que je viens de raconter, le débat sur la question du handicap mental, on peut la déplacer aussi du côté du handicap psychique. Par exemple, le handicap psychique, ça a pu être dénoncé aussi en sociologie, un peu en philosophie aussi, comme une façon pour la psychiatrie, notamment autour de la maladie mentale, de stigmatiser un certain nombre de différences de fonctionnement et de mettre de côté, d'enfermer une partie de la population qui dérange, cette fois-ci non pas l'ordre scolaire, mais l'ordre social, de manière plus générale. Alors, toute cette manière de penser ces questions, qui renvoie là, par exemple, pour ce que je viens de vous raconter juste avant, à la médicalisation de l'échec scolaire, c'est comme ça que les sociologues parlent souvent de ces processus-là. On a mis des catégories médicales sur quelque chose qui, en fait, était très étroitement lié à des processus sociaux. Ça renvoie plus généralement à une approche sociologique particulière qu'on appelle de construction sociale des troubles, qui vise à dire ce qui est présenté comme des réalités naturelles, médicales, donc un grand nombre de troubles, sont en fait des constructions sociales. Alors c'est là que c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que ce sont des constructions sociales? Est-ce qu'on veut dire que ça n'existe pas pour de vrai et que c'est simplement dans l'intérêt d'un certain nombre de professionnels ou d'institutions qu'on a créé des nouvelles catégories? Ou est-ce que ça veut dire qu'on s'est mis à interpréter, à penser différemment des choses dont on peut ne pas nier l'existence? C'est un débat important en sociologie. Par exemple, dans ce que je vous ai raconté là, sur le handicap mental, les sociologues comme Pinel et Zafiropoulos, comme Jacqueline Gâteau-Mentier, vont pointer un certain nombre de situations où ils vont dire, en fait, il n'y a pas de vraie déficience, il n'y a pas de vraie différence autre qu'une différence sociale entre les enfants qu'on va mettre dans des classes de perfectionnement et les enfants qui restent dans les classes ordinaires. En même temps, si on pousse un peu, ces sociologues ils vont forcément reconnaître que, des enfants qui souffrent, qui sont atteints d'une trisomie 21, ils n'ont pas les mêmes manières de raisonner que d'autres enfants. Donc, on va pouvoir faire admettre que oui, il y a une différence quelque part. Alors, c'est là qu'il y a toute cette ambiguïté dans le terme de construction sociale. Quand on dit construction sociale, ça ne veut pas dire que forcément on part de rien et qu'on crée des choses artificielles. Ça veut dire qu'on donne une forme sociale particulière avec des catégories, avec des étiquettes, avec des institutions à des phénomènes. Parfois, on part d'une base qui a peu de réalité empirique. Parfois, on part d'une base qui a une forte réalité empirique. Dans les deux cas, il peut y avoir un phénomène de construction sociale. Deuxième approche concurrente par rapport à toutes ces questions, par rapport par exemple à des nouvelles catégories psychiatriques, on peut penser ça comme ça aussi, c'est la question de la production sociale des troubles. Donc, c'est d'autres recherches sociologiques qui vont insister non pas sur le fait qu'il y a des choses qui sont les mêmes depuis très longtemps et tout d'un coup on leur donne un autre nom, ça c'est un peu l'approche par la construction sociale, mais reconnaître qu'effectivement il peut y avoir des nouveaux troubles, des nouvelles manifestations pathologiques. Et la façon de les approcher de manière sociologique, ça va être de dire que ces nouveaux troubles, ils sont liés quand même très étroitement à des processus sociaux. Parce que la société se transforme. Et au fur et à mesure que la société se transforme, elle crée de nouvelles formes de déficience, de souffrance. Alors, c'est particulièrement intéressant dans le cas des problèmes psychiques. Il y a pas mal d'auteurs, par exemple Ian Hacking, qui montre comment, d'une période à l'autre et d'une société à l'autre, il y a des formes d'expression de la souffrance psychique qui sont très différentes. Dans une société capitaliste, on ne va pas avoir les mêmes formes d'expression de la souffrance psychique que dans une société, dans des îles de l'Océanie. Il y a effectivement pas mal de descriptions de troubles qui sont très spécifiques à des sociétés données. Donc ces approches qu'on peut appeler de production sociale des troubles vont essayer de montrer comment chaque société sécrète ses propres manières d'aller mal, sur le plan de la souffrance psychique, mais aussi sur d'autres plans, parce qu'on peut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'industrialisation crée des maladies particulières, hein, pas seulement des maladies psychiques. C'est pas entièrement contradictoire avec la question de la construction sociale des troubles. On peut regarder ensuite comment est-ce que certains professionnels s'emparent de ces phénomènes, leur donnent des noms particuliers, les traitent de manière particulière, mais ça insiste quand même sur le fait que, oui, il peut y avoir des nouveaux troubles, il y a des processus sociaux, et que ce n'est pas seulement des questions de réétiquetage, en fait, et de nouvelles façons de penser des choses qui existent depuis toujours. Troisième et dernière façon de prendre ces questions, et c'est dans ce genre d'approche que moi j'inscris mes recherches, même si les autres approches m'intéressent aussi, question d'usage sociaux des troubles. Ça consiste, de parler en termes d'usage sociaux des troubles, ça consiste à décaler un peu le regard en disant, ben, par exemple, on ne va pas s'intéresser à savoir, je ne sais pas, je donne un exemple de recherche actuelle, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants qu'on va appeler hyperactifs? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une épidémie d'hyperactivité? Est-ce que c'est parce qu'on donne un nouveau nom à des choses qui existent depuis longtemps? Est-ce que c'est parce que les transformations de la société créent une forme d'agitation particulière? Bon, ça, c'est construction sociale des troubles, production sociale des troubles. Une autre façon de prendre ces questions-là, c'est de dire pourquoi est-ce que cette manière de penser les choses a du succès dans certains morceaux de la société plus que dans d'autres? Pourquoi est-ce que certaines fractions de la population, alors en l'occurrence sur les questions d'hyperactivité, pourquoi plutôt dans des milieux favorisés, avec des ressources sociales importantes, on va avoir un intérêt à aller plutôt vers telle caractérisation des troubles que telle autre? Quels sont les enjeux? Quels sont les intérêts? Pourquoi est-ce que l'usage de ces catégories-là va être particulièrement prisé dans tel secteur de la société et à telle période? Donc ça consiste du coup ensuite à aller voir les différents enjeux pour les familles notamment, avoir une qualification plutôt en termes d'hyperactivité ou plutôt en termes de troubles du comportement, du trouble des conduites, du trouble de la personnalité. Qu'est-ce que ça engendre comme vision de soi-même, comme vision des enfants, comme vision de son avenir? Qu'est-ce que ça permet comme possibilité? Alors justement, par exemple, dans le champ du handicap, qu'est-ce qui va permettre une reconnaissance de handicap ou non? Qu'est-ce que ça va permettre? Et une des idées centrales par rapport à tout ça, c'est de dire que il y a énormément de choses qui se mélangent, par exemple pour les familles, parce que pouvoir penser les problèmes d'un enfant de telle façon plutôt que de telle autre, ça va avoir des conséquences à la fois morales. Est-ce qu'il y a une question de culpabilité de tout ça via ces problèmes-là? Ça va avoir des répercussions financières. Est-ce qu'on peut avoir des reconnaissances, etc. Ça va avoir des enjeux en termes d'orientation. Est-ce que du coup on va choisir telle école plutôt que telle autre? Ça va avoir des conséquences aussi au niveau de l'organisation familiale. Est-ce que dans la famille on va être d'accord pour penser les choses de telle façon? Est-ce qu'on va pouvoir impliquer plus ou moins les gens? Voilà, il y a plein d'enjeux qui vont se mélanger pour les parents et qui vont faire qu'à un moment donné, dans un milieu donné, on va avoir plus d'appétence, d'attirance pour une certaine façon de penser les troubles par rapport à une autre. Donc voilà, dit très rapidement un petit peu. Une autre façon encore d'essayer de penser ces questions-là. Voilà, je m'arrête là pour ne pas être trop long. Je vous remercie de votre attention et